affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Un tigre dans la forêt vous regarde. Un basilic se fond sur un tronc d'arbre. Un caracal semble peint et sortir ou s'intégrer au paysage qui est situé en arrière de lui. Tous ces animaux peuvent être admirés dans une exposition de photographies. Qui se tient actuellement jusqu'au 22 novembre au Quai de Conti à l'Institut de France. Elles sont dues au photographe Éric Pillot, lauréat 2014 du prix de la photographie Marc Ladrette de la Charrière, Académie des Beaux-Arts, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui dans notre studio pour qu'il nous présente cette œuvre absolument singulière. Éric Pillot, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je voudrais que vous commenciez par nous présenter peut-être le projet de cette exposition, mais aussi que vous le replaciez dans une perspective, puisque cette exposition s'appelle In Situ États-Unis, mais elle a été précédée de deux autres projets qui s'appelaient In Situ et In Situ numéro 2, si je ne me trompe pas.
Oui. Alors tout à fait, en fait, donc ça c'est la suite d'un travail sur l'animal que j'ai entrepris il y a pas mal de temps. Il y a une dizaine d'années, tout à fait par hasard, en fait, photographiant des ours blancs dans un zoo qui se trouvait dans un bassin. En fait, je les ai vus vraiment sous l'eau et il y a quelque chose de complètement onirique qui m'a intéressé. Et puis, petit à petit, je me suis mis à travailler sur la juxtaposition des animaux du zoo, comme ça, avec les décors. Et d'abord en noir et blanc, et puis en couleur avec une série in situ, que j'ai commencé en 2010-2011, par là. Et là, dans le cadre de prix, donc moi je vais proposer, parce que c'est un prix qui attribue à un projet, enfin les photos ne sont pas faites, je vais proposer de poursuivre le travail que j'ai fait en Europe, dans les eaux de l'Est des États-Unis, en me disant que la culture du pays, les espaces, le rapport à l'animal, les influences des décorateurs, etc., donnerait quelque chose d'autre par rapport à ce que j'avais fait les années précédentes.
Alors c'est le cas, évidemment, la radio n'est pas le média le plus adapté pour présenter un travail de photographie, mais nous allons le décrire. Ce qui est formidable, c'est et étrange, dérangeant, onirique, ce qui dégage une mélancolie et une foule de sentiments extrêmement variés, c'est que ces animaux sont donc pour la plupart placés devant des décors peints qui sont censés représenter avec plus ou moins de talent, mais toujours beaucoup de poésie, leur biotope naturel. C'est bien ça ?
Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, il y a une espèce d'illusion, je pense, qu'on peut ressentir devant mes images, qui est due là, pas une mise en scène de ma part, mais une mise en scène des eaux que j'utilise. Alors c'est pas non plus un travail sur les eaux, je fais pas du tout un travail documentaire sur les parcs zoologiques en disant tiens, vous voyez, c'est ça qui se passe dans les eaux. En fait, j'utilise un peu leur décor pour parler d'autre chose, hein, donc évidemment de l'animal. Et ces décors, ben, ça, c'est un peu nous aussi, c'est notre environnement, c'est aussi l'homme qui les a faits. Parfois de façon un peu savante, parfois de façon un peu naïve. Oui, les décors sont extrêmement présents dans mes images. Ouais.
Alors les décors, vous l'avez dit, sont extrêmement variés. Il y en a qui tiennent du douanier Rousseau, il y en a qui tendent vers le réalisme, d'autres encore qui ressemblent presque à des dessins d'enfants. Il y a un effet recherché dans le choix, dans la mise en scène. Comment les travaillez-vous ? D'abord, vous ne les avez pas retouchés, je crois que c'est
important. Effectivement, c'est pas quelque chose, je ne mets pas un... une pancarte comme ça à l'entrée de mon exposition, disant attention, c'est une photo, ne soit pas retouchée, etc. Il n'y a pas de mise en scène, mais c'est effectivement le cas. J'en fais pas non plus mystère, mais je prends vraiment ces scènes telles que je les vois. Vraiment comme n'importe quel visiteur a priori pourrait les prendre dans un zoo. Je rentre pas non plus dans les enclos, voilà. Et c'est important pour moi de prendre cette réalité là. Il y a peut-être une espèce d'alchimie qui naît de ce vraiment de cette façon de procéder. Il n'y a pas non plus, de temps en temps, alors ça dépend énormément des visiteurs, mais les animaux sont tous dorés, enfin, ce sont des animaux sont pas empaillés, ils sont pas mis en scène, et simplement, je me balade dans les eaux et je prends, et il y a un moment, quelque chose se passe, et il y a une scène un peu pour moi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du spectacle dans ces mises en scène. Ces animaux, je les vois un peu comme des acteurs, comme ça, et à un moment, ça résonne, je pense, avec mon propre imaginaire. Peut-être avec mes pensées aussi, parce que au fil des ans, en m'intéressant via la photographie à l'animal, évidemment, j'ai lu pas mal de choses. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce prisme de l'animal pour penser notre condition. Et je pense plus spécifiquement de notre condition à nous, qui vivons dans les pays occidentaux, pour la plupart d'entre nous, dans des villes, dans des choses urbaines. Ça parle de ça, il y a une espèce de jungle urbaine, je pense aussi, dans mes images.
Oui, vous avez dit dans la présentation de l'exposition que l'animal est à la fois l'autre, mais c'est un autre qui nous parle de nous-mêmes.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que l'animal est représenté en tant que tel, en tant que tigre représentant de cette famille de tigres. Enfin voilà, c'est ces êtres en eux-mêmes, et puis en même temps, il y a sans du tout, enfin, je pense, de ma part, anthropomorphisme, mais pour nous, symboliquement, c'est aussi un peu un autre comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils sont seuls dans mes images. Parce que souvent, on me dit, oh là là, cette solitude, c'est pas exactement ça comme ça, enfin, en tout cas, je les ai conçus. C'est que souvent, ils ont plusieurs, ils sont rarement seuls dans leurs enclos, mais je les isole pour que le visiteur qui regarde en fait, mes images, et surtout les grands tirages, ça c'est vraiment important pour moi que les gens voient les tirages, se retrouvent une espèce de face-à-face comme ça, une espèce de dialogue silencieux. Alors je fais la photo, donc effectivement les choses ne sont pas explicitées par la parole, et pour moi c'est très très important ça. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est renvoyé à l'autre. C'est-à-dire qu'on regarde l'animal et puis à sa façon aussi l'animal qui est figuré dans mes images me regarde moi d'abord qui fait la photo, je me laisse regarder par l'animal et il regarde aussi donc le spectateur, si je puis dire.
De fait, on a l'impression d'une sorte de jeu de miroir. Nous regardons l'animal nous regarde. Si on en ajoute à cela que le décor est un décor de cinéma qui est peint, on se retrouve dans une sorte de mise en abîme.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et de fait, c'est difficile de parler de vos images parce que souvent on reste plutôt sans voix et plongé soit dans un abîme de perplexité mais poétique, ou renvoyé à sa propre enfance. Pour ne rien vous cacher, chers auditeurs, nous avons visité l'exposition tous les deux avant de faire l'émission. Et pour ma part, j'ai été saisi par des émotions qui étaient celles de mon enfant. C'est comme si l'enfant qui était en moi se réveillait à la vue des images, que du coup, je pouvais constater qu'il était encore vivant, mais qu'en même temps, mon Dieu, comme il était lointain déjà.
Non, c'était votre première réaction et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça résonnait avec quelque chose de très précis chez moi, c'est que ce travail sur l'animal, j'ai vraiment commencé par hasard, comme plein de photographes, en fait, j'attends d'être saisi par des chocs visuels comme ça, une espèce d'émotion. Et celle que j'ai eue, c'était en 2004, c'est vraiment en retournant dans un zoo, dans le sud-ouest de la France, que j'ai visité assidûment enfant, parce qu'on allait toujours en vacances dans cette région, et comme plein enfant, voilà, on a une vision un peu assez fantastique comme ça, quelque chose de complètement magique de voir ces animaux. Alors, en plus, quand il y a des bébés animaux, c'est pas rien. Voilà. Et 20 ans après, je retournais dans le zoo en me disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu cet endroit et comment je vais le voir moi. Et puis c'est vraiment en voyant des ours sous l'eau dans ce zoo qu'il y a quelque chose qui a basculé en moi, qui m'a vraiment intéressé. Et donc vraiment initialement, ça fait vraiment écho pour moi à des souvenirs d'enfance. Et dans mes photos, je pense qu'il y a un peu de ça, et notamment dans le plaisir que j'ai à composer avec les couleurs, à faire varier ces décors qui pour moi restent dignes, et puis en même temps il y a une certaine part de malice, hein, d'ironie comme ça, douce de ma part, à les mettre en scène comme ça, en les photographiant, via ma photographie, parce qu'ils sont mis en scène par les autres, puis en les montrant, en les exposant.
Oui, c'est une ironie de situation, pas une ironie dirigée vers les animaux, bien au contraire,
car
ils sont présentés pour la plupart dans toute leur
dignité,
leur majesté pour certains d'entre eux, et même d'un certain point de vue, lorsque nous les voyons à travers votre regard spécifique, on a l'impression, alors c'est curieux, parce que ce sont des animaux qui vivent en captivité, qui sont dans un décor de théâtre, et pourtant, on a le sentiment d'avoir l'essence même de cet animal. C'est-à-dire que on dit c'est un lion, on le représenterait comme il est là, mais c'est un vrai lion.
Oui, je suis content que
mais il représente tous les lions, ouais, le lion.
C'est l'idée que ça vous donne. Effectivement, et c'était très important pour moi cette idée de représenter l'animal comme un être intègre. Et cela aussi, il y a donc deux visions. En même temps, c'est l'animal en lui-même, et puis en même temps, il y a cet autre. Voilà, cet autre qui peut être un homme, cet animal particulier. Donc ça, c'est vraiment important qu'il ne soit pas misérable, etc. Et puis, il y a forcément une fascination de ma part, qui est passée quand même pas mal de temps à errer dans les eaux, à essayer de photographier ces animaux, que je trouve assez, assez fabuleux visuellement, dans une espèce de tenue, comme ça, de l'être. Le fait que, effectivement, vous avez parlé du mot essence, il y a quelque chose, effectivement, de l'essence du lion que j'essaye de photographier. Et c'est pour ça que souvent les animaux sont plutôt. Alors, de temps en temps, on me dit, tiens, ils ont posé pour vous. C'est pas exactement ça non plus. Mais je les prends à un moment où, voilà, ils sont pas en train de courir partout, ils sont pas en train de forcément de jouer ou de. Ils sont pas dans une action, voilà. Parce que j'ai essayé pas mal de choses, mais si je photographie un singe qui mange une pomme, ben, on va dire, tiens, on joue un singe qui mange une pomme et pas forcément le singe comme ça. Voilà. Ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir cette idée de l'être avec tout le mystère que ça peut, comment dire, que peut avoir ce terme.
En même temps, c'est là où le jeu est complexe, c'est que l'animal semble défendre sa propre dignité en conservant une posture qui est la sienne, celle de son espèce, et en même temps, c'est ce qu'on attend de lui dans un zoo. On veut que le lion soit un lion, que la tortue soit une tortue. Donc, ce jeu de miroir ou d'idées contradictoires qui nous viennent n'a plus de fin lorsqu'on regarde vos photographies. C'est pour ça qu'on est un peu dans la perplexité.
Oui, tout à fait. Et en même temps, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête à un certain seuil, c'est que les animaux que je photographie sont, pour moi en tout cas, dans mon esprit, pas des animaux domestiques. Je m'explique. Ça veut dire que si je photographie, ça m'est arrivé de photographier dans des zoos des animaux qui ressemblaient un peu trop, par exemple des buffles comme ça, complètement exotiques, mais qui ressemblaient un peu trop à nos vaches, cochons, etc., nos animaux de la ferme, enfin nos animaux domestiques à nous, ça marchait pas, il y a quelque chose qui marchait pas. Moi, je me laissais pas emmener, sans doute, au départ, dans l'imaginaire, et puis je trouvais que non, bah, ça partait pas ailleurs comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je trouvais ça assez joli, cette idée d'un animal qui intègre et qu'on ne peut pas non plus tout à fait domestique, et on ne peut pas le réduire, on peut lui imposer son comportement. Ça, c'était vraiment, vraiment important. Et je pense que pour moi, ça, en tout cas dans l'idée, ça donne une limite. Cette chose-là, c'est qu'à un moment, passe une frontière, et c'est aussi l'image de l'autre que j'ai, ben, effectivement, l'autre, c'est quand même, il restera forcément quelque chose de complètement insondable, mystérieux et donc fascinant. Voilà.
Oui, la plasticité, c'est limite.
Ah, tout à fait. Alors, je voudrais rajouter, il y a quand même un lapin, pour la première fois, dans mon exposition. Toute règle met des exceptions. Mais là, il est dans un décor qui représente le désert, c'est un lapin du désert, qui ressemble à un lapin domestique, mais on figure bien que ce lapin-là, voilà, il vit vraiment là, qu'on ne le porte pas dans les bras, et qu'en un sens, il ne peut pas être domestiqué, lui. Voilà.
Alors, dans vos photographies, bon, l'animal se trouve souvent au centre, mais même s'il n'est pas au centre, c'est lui qui capte l'attention.
Oui, tout à fait.
Toutefois,
les
décors ont aussi toute leur importance. Je dirais presque en eux-mêmes, enfin, ils sont également fascinants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces décors peints?
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est intéressant parce que, alors certes, il y a un côté, on voit un peu, c'est intéressant de voir comment l'homme présente la nature. Et puis, il y a une part de jeu, hein, je pense, dans les gens qui ont conçu les décors, dans moi qui les photographie dans tel ou un tel, ou, enfin, avec l'animal à tel ou tel endroit. Et puis après, alors là, ce que j'ai trouvé aux États-Unis, et c'était quelque chose qui était important pour moi dans les séries qui montraient actuellement à l'Institut de France, c'est que j'espérais quand même trouver quelque chose d'américain dans ces présentations, dans cette représentation de la nature, etc. Donc il y a voilà, un ami angliciste qui s'appelle François Monontail qui écrit là-dessus, et il parle de ça, de différentes choses, et notamment le fait que il y a quelque chose de l'ordre de la wilderness, de l'état sauvage, enfin de ce paysage sauvage qui est resté à conquérir. Et là, dans cette exposition, il y a des décors, effectivement, où derrière, alors qu'il s'agit d'un mur complètement en trompe-l'œil, donc c'est vraiment une surface qui s'arrête. Et là, on a l'impression vraiment d'un décor qui se prolonge sur un paysage immense, etc. Voilà. Après, il y a des choses aussi sur les couleurs. Il y a pas mal de bleu, de vert. Enfin, voilà. Et donc, il y a ces toute une variété de décors qui sont beaucoup intéressants, enfin qui moi m'intéresse aussi beaucoup. Il y a le canyon, voilà, parce que je pense que de toute façon ces décors-là, ils sont pas du tout faits pour tromper l'animal, je vois, personne n'est dupe, mais vraiment c'est pour vraiment immerger les visiteurs dans une espèce de chose qui est, voilà, pour qu'ils partent aussi eux dans leur imaginaire, et ce que j'essaye vraiment d'appuyer en fait avec mes images. Mais je pense que largement, hein, c'est l'homme qui, sans là, de façon un peu plus inconsciente, quand même retranscrit d'une certaine façon son propre environnement, c'est-à-dire l'espace dans lequel lui évolue.
Vous me disiez que ces peintures, ces trompe-l'œil, s'inscrivent aussi dans une tradition picturale typiquement américaine.
Oui, en tout cas, pour voilà. Après, je ne voudrais pas non plus plaquer. Je suis pas, voilà. Pour moi, c'est important aussi de me placer, d'être à ma place en tant que photographe. Je suis pas non plus un naturaliste. Je suis pas un éthologue du tout. Je suis pas sociologue. Je suis pas philosophe. Mais voilà, si je peux me nourrir de différentes matières, voilà, ça ne nuit pas, je trouve. Et puis ça m'intéresse. Mais donc j'aurais pas plaqué. Mais effectivement, il y a, en tout cas, très visuellement, il y a quelque chose de quand même très nettement différent de ce que j'ai fait avant. Très américain. Il y a aussi l'idée, aussi simplement la façon dont les Américains se considèrent. Alors ça peut être, ils peuvent se considérer comme emblématiques de tout ce continent américain, y compris l'Amérique du Sud. Voilà. Et alors l'Europe, voilà, l'Europe, on n'est pas trop représenté dans les décors, parce que de temps en temps, il y a des décors qui clairement figurent pas l'Amérique, mais vraiment les pays d'origine de ces animaux, que ce soit l'Asie ou l'Afrique. Alors l'Europe, pas trop. Je pense que pour eux, c'est un paysage qui est un peu joli, comme ça. Je crois qu'il y a un jardin à la française un peu pour eux, par rapport à...
Oui, les bocages, c'est pas assez exotique.
Oui, tout à fait. je crois que ça leur parle moins. Je trouve que c'est
peut-être moins intéressant. C'est pas une terre vierge à conquérir, c'est...
Non, pas vrai.
C'est l'origine sous forme de mauvaise conscience.
Voilà, c'est une Europe qui... c'est un paysage qui, depuis très longtemps, ou trop longtemps pour eux, a été un peu canalisé. Donc, on sent que ça les intéresse moins. Voilà.
Par moment, certains de ces décors sont quand même dans le kitsch absolu, peut-être pas volontairement. Il y a notamment une photographie d'un singe d'Amérique du Sud, j'imagine, parce qu'il est placé devant un décor de temple inca, mais alors qui évoque forcément le trait d'Hergé dans Vol 717 pour Sydney.
Ouais, il y a un côté bande dessinée, hein, je trouve, dans mes images. Et je trouve que ça fait... oui, d'ailleurs, je suis devenu, avec les dernières années, un peu fan de bande dessinée que je ne connaissais pas bien avant. Et en travaillant ces images, d'ailleurs, en travaillant les couleurs. Et effectivement, vous parlez d'un singe qu'on appelle singe araignée, qui s'appelle un attel aussi, un attel noir, et qui se trouve vraiment dans un décor et qui en stuc comme ça. Et bon, c'est un singe d'Amérique du Sud, et donc voilà, les concepteurs du décor ont trouvé ça, je sais pas, amusant ou évocateur peut-être. Et donc il y a une espèce de tête vraiment qui est derrière. Alors effectivement, tout le jeu quand on fait des photos, c'est de trouver un moment où ben, il y a quelque chose qui se passe comme ça, et donc voilà, il y a un moment où il correspond un peu à cette tête, et donc ça abstrait quelque part les choses, tout à fait. Donc je comprends que vous pensiez aux bandes dessinées à Tintin ou d'autres choses comme ça. Voilà. Il y a aussi un guillemot comme ça qui est devant un ciel complètement orageux, qui moi me fait penser à l'Écosse, qui sont pas l'Écosse dans l'esprit du peintre, mais il y a ce genre d'influence, ouais, tout à fait.
On voit aussi un lion qui était dans un décor qui n'est pas sans évoquer Carnac ou l'Écosse.
Oui, oui, oui. Alors comme ça, ça a l'air complètement dérisoire, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, je pense, dans mes images. Quelque chose de l'ordre de la fragilité, un peu de l'existence. Alors c'est pas une fragilité, attention, on se dit pas ça va se briser à tout instant, je crois que c'est pas ça, mais l'idée que voilà, le notre qui renvoie, je pense, quand même à la condition des animaux et la nôtre aussi, notre condition de mortel, c'est-à-dire que bon, il y a quelque chose de l'ordre peut-être de l'humilité, enfin quelque chose comme ça. Et donc oui, donc ce lion derrière, si on le cache un peu, ça pourrait tout à fait faire penser à la Bretagne. Tout à fait, ouais, tout à fait, avec des dolmens, des pierres comme ça, voilà. Et donc, il peut y avoir un côté, sur certaines, hein, assez humoristique, et puis, de toute façon, un décalage avec ces animaux qui sont placés là, par la main de l'homme, comme ça. Hein. Donc, mais pour moi, ça renvoie vraiment à ce... Il y a vraiment une ironie assez douce de ma part.
Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est un humour tendre. Hein.
Oui, oui, quand même, oui, 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 c'est pas caustique, voilà, c'est pas du tout caustique.
Ni à l'égard des animaux, ça vous l'avez dit, mais ni d'ailleurs à l'égard de ceux qui ont conçu ces eaux. On sent que le...
Non. Ça reste respectueux. Voilà, après, effectivement, je pense dans toute œuvre, je ne sais pas si on peut la considérer comme ça, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre, je pense, enfin, en tout cas pour moi, du tragique. Et donc, il peut y avoir des photos que je ressens comme plus ou moins dures, comme ça, surtout quand l'animal fait face, sans doute. Voilà, on a visité l'exposition ensemble, il y avait un kangourou.
Oui, le kangourou est une photo dérangeante.
Oui,
enfin,
oui,
pour
oui.
Moi. Voilà,
oui,
je
oui, 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 tout à fait. Et c'est assez amusant pour moi aussi, et très intéressant de voir les réactions qui en général sont assez différentes face à mes images. Alors, il y a l'idée des eaux, effectivement, dès qu'on fait de la photo, de toute façon, le sujet occupe pour pas mal de gens, une place assez importante. Donc, je dis, tiens, il fait quelque chose, un photographe qui photographie les eaux, les animaux sont enfermés, est-ce qu'il est pour contre l'enfermement? Bon, alors, bon, c'est une première question qui pour moi, s'évacue vite, et jamais constaté, d'ailleurs, que ça changeait quoi que ce soit dans la position des gens. Dans la position qu'avaient les gens vers les eaux, s'ils les aimaient après avoir vu mes photos,
ils les
aimaient toujours, et ils ont tendance à me demander, tiens, où ils peuvent aller visiter ces eaux-là, et puis s'ils les aiment pas, qu'ils me disent, ah, vous avez raison, quand même, c'est terrible, ces animaux. Je dis, bon, en même temps, vous gardez quand même quelque part un peu le sourire, donc c'est pas exactement ça, et j'aurais pu prendre, voilà, je pense qu'il y a des eaux bien plus misérables que ceux que j'ai photographiés. Voilà. Mais il y a forcément cette question-là qui se pose dans mes images. Et donc, après, il y a quand même question de liberté aussi, d'un point de vue symbolique, dans mon travail. La liberté, alors qui n'est pas forcément celle des animaux... tels qu'ils sont placés dans les eaux, où finalement je dis assez peu de choses hein, de leur enclos, parce qu'on ne sait pas si derrière, et souvent c'est le cas, il n'y a pas un terrain voilà, plein de verdure avec des arbres, je ne dis pas si l'enclos est petit ou pas, enfin, c'est, voilà, ça on ne le sait pas. Hein. Alors, mais effectivement, ils sont quand même enfermés, et pour moi ça parle aussi de certaines limites actuelles. Enfin, limite propre d'être vivant, qui sont liées je sais pas, simplement des contraintes matérielles, enfin, une liberté surtout de l'esprit. Voilà. Et ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse. Voilà, cette liberté, mais qui n'est pas celle des animaux qui sont enfermés dans des zoos comme ça.
Il faut que vous nous en disiez un petit peu plus.
Oui.
Non, mais c'est-à-dire que c'est le fait même d'être un être qui fait que forcément nous avons des limites et nous sommes limités. C'est ça que vous vouliez représenter ou au sens de l'enfermement, où les deux se répondent?
Non, mais alors t'entends, on pourrait croire que on est dans une société qui comme ça nous enferme, enfin dans ce monde urbain, enfin les gens, les transports, il peut y avoir ce genre de choses comme ça, les horaires de bureau, des choses comme ça. Pour moi, il y a les deux, il y a ça et puis il y a aussi cette, je suis pas, comment dire. C'est pas du tout rétrograde, c'est mes images là-dedans. C'est que il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du virtuel. Enfin, de justement moi-même, je fais des images avec un moyen qui est assez moderne, qui est la photographie, qui est récent, bien plus récent que la peinture, les dessins. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Avant, j'étais scientifique. Donc, j'ai absolument rien contre ce progrès scientifique. Voilà. Après, c'est l'utilisation et puis peut-être l'espèce de conscience qu'on doit avoir de ces limites-là. Et puis, c'est sans doute pas un hasard si je fais ces photos à un moment où on parle beaucoup d'environnement. Et parce que, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vraiment ce genre de limite dont je parle, je crois. Voilà.
En revanche, il y a une limite qui est en train de sauter au ouais. sens de frontière hermétique. C'est celle entre le règne animal, l'humain. Ouais. On voit plus tout ça aujourd'hui sous la forme d'un continuum. Et lorsqu'on voit ces animaux en face à face, lorsqu'ils nous regardent, lorsque cette relation s'instaure, fût-ce avec une image fixe, de fait, on a une forme d'empathie et de proximité qui est troublante.
Oui, oui.
Et qui va dans ce sens-là.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il peut y avoir quelque chose d'un peu dérangeant là-dessus. Et moi, vraiment, il y a deux choses qui m'intéressaient dans les images que j'ai commencé à faire vraiment au tout début dans les zoos. C'était vraiment ce mélange de construit, comme ça, par l'homme, d'artificiel. Hein. Et effectivement, il y a le côté machine qu'on peut avoir. On a des prolongements déjà avec les téléphones portables, les écrans, tout un tas de choses comme ça, qui vont sans doute, des prolongements dont le développement va sans doute s'accélérer. Et puis, c'est très important quelque chose d'organique comme ça, qui est dans mon esprit quelque chose de la nature vierge un peu, et c'est encore une notion qui mériterait d'être précisée. Ça, vraiment, c'était assez fondamental pour moi de juxtaposer ces deux aspects dans mes images. Et puis l'homme, il est, ce que je racontais tout à l'heure, il est un petit peu pour moi dans les deux, dans cet animal, et on fait partie du règne animal, et, enfin, pour moi. Et aussi, c'est lui qui a construit ce décor, et il se prolonge aussi là-dedans. Alors, effectivement, et donc via mes images, forcément, je me suis intéressé à l'idée de l'animal. Alors, en France, il y a des gens comme Jean-Christophe Bailly qui écrit sur le sujet. Hein, c'est vraiment un thème central pour lui. Et puis, il y a des écrits que je trouve assez fabuleux, notamment quand il parle vraiment, c'est des anecdotes assez incroyables. Je me suis intéressé à l'éthologue France Deval, qui a beaucoup écrit sur les chimpanzés, les bonobos, sur des modèles de société peut-être un peu différents de l'idée qu'on a de la nature, a priori. Et après, il parle un peu de nos sociétés. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il raconte sur les animaux, je trouve que ça a pris vraiment, pour moi, assez un socle qui me paraît très intéressant pour nous projeter, pour envisager la façon dont on peut évoluer, de ce qui est important, de ce qui est fondamental. Et il y a tout ça pour moi dans mes images, là, dans ces images que je fais depuis plusieurs années.
Vous allez continuer à travailler sur les animaux ?
Ah, oui, je pense que c'est un peu, ça me fait penser à un titre, c'est un livre d'abord, mais je crois qu'il y a un film différent qui a été fait, mais je pense à une expression, l'amour est un crime parfait. Je trouve, c'est un peu ce que je ressens avec ces animaux, c'est que je ne l'ai pas voulu vraiment, et puis en même temps, il y a quelque chose qui, pour moi, qui me correspond bien. Parce que il y a cette idée de double, enfin, il y a tout un tas de projections comme ça qui comme ça condensent tout un tas de questions que je me pose moi en tant qu'individu. Alors oui, j'aimerais bien continuer cette série et aller voir notamment en Asie, en fait, pour prolonger un peu cette histoire de culture qui m'intéresse. Voilà. Bon, après, il y a des zoos, je ne dis pas que c'est ça que j'ai photographié, mais il y a des zoos en Chine où voilà, on peut voir des chiens, des caniches, parce que pour eux, c'est des animaux complètement exotiques. Voilà. Tandis qu'il y a des zoos qu'on ne verra pas, parce que pour eux...
Problème de nouvelle mise en abîme.
Tout à fait. Alors voilà, il ne faut pas non plus que ça soit trop téléphoné. Mais en tout cas, ça m'intéresse d'aller là-bas, d'aller en Inde aussi, parce qu'il y a des pays qui ont un rapport à l'animal qui est quand même très différent du nôtre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, je suis encore allé aux États-Unis, où bon, voilà, on n'est pas si éloigné. Je crois que c'est Deval qui dit d'ailleurs qu'il y a des sociétés qui sont très différentes, sans doute parce qu'ils ont connu le singe très tôt, en fait. Très tôt. Bien plus tôt que nous, en Occident, où on l'a découvert bien plus tard. Et donc, sinon, dans l'absolu, je ne fais pas que des photos d'animaux. Je travaille sur le paysage depuis un moment. Voilà, les paysages que je prends dans le nord de la France. Très épuré, il y a encore question de nature, voilà, de la vie qui passe.
Nous avons vu que votre imaginaire et votre réflexion se nourrissaient d'une multitude de disciplines. Il est vrai que vous avez un parcours un peu singulier. Enfin, je ne sais pas quel parcours normal d'un photographe. D'ailleurs, c'est
oui,
stupide ce que
fait.
Je dis, mais vous n'avez pas toujours été photographe, en tout cas.
C'est pas stupide. Non, pas du tout. Parce que moi, au départ, il y a 20 ans, quelqu'un qui m'aurait dit que j'aurais fait la photo, la photographie aurait été mon activité principale et que j'aurais passé beaucoup de temps d'attention à photographier des animaux dans des zoos, j'aurais été vraiment le premier surpris, j'aurais pris pour un fou complet. Non, effectivement, je faisais autre chose. Je suis le cursus des bons élèves, on va dire. Donc, je suis passé par des grandes écoles scientifiques et j'ai travaillé 7 ans comme ingénieur. Voilà. Dans un milieu très différent parce qu'il s'agissait des constructions navales et même militaires. Il y a un petit détail qui m'est apparu après, mais j'ai une spécialité, je m'occupais de détecteurs de radar, des appareils pour lesquels la sensibilité est importante. Voilà. Et avant de découvrir la photo, en passant par quelques années, ça a été le jazz. Alors, je ne suis pas versatile du tout, mais c'était une espèce de long parcours comme ça, intellectuel et puis aussi sensible pour moi. Et au départ, c'est vraiment passé par la musique.
Musique de jazz. Auparavant, la photographie n'était même pas votre hobby.
Non, pas du tout.
C'était en dehors de votre...
Ah oui, à la fois, je pense que c'était très enfoui, parce que j'ai découvert la photo très jeune avec un père qui, comme beaucoup d'autres, faisait de la photo en amateur, mais quand même développait ses films, avait un labo. Donc ça m'a marqué, parce qu'il y a quand même une espèce de magie du labo, cet éclairage inactinique rouge souvent. Surtout l'image qui apparaît comme ça dans le révélateur. Il y a même des termes comme ça qui sont très marquants. Et puis, à l'époque, ce n'était pas courant. Enfin, je ne sais pas, 70 ans, mais je ne suis plus tout jeune non plus. Je suis dans 68. Mais quand j'étais enfant, j'ai vu des expositions de photos, des diaporamas, ce genre de choses. Et ce n'était pas si courant, les expos de photos. C'est pas du tout. La photo n'était pas considérée telle qu'elle est maintenant. Et puis voilà, donc j'avais me servir d'un appareil photo et puis pendant plus de 20 ans, je ne faisais pas du tout photo, mais j'ai dû faire 5 films sur 20 ans, donc vraiment, vraiment, vraiment pas.
Et c'est un lent basculement, c'est progressif, un continuum là aussi, ou un matin, tac, il y a quelque chose qui se produit.
Alors c'est étrange parce que à la fois, d'abord je suis venu aux choses artistiques via la musique, et la musique de jazz que j'ai pratiquée, en tout cas avec passion pendant plusieurs années, et puis à un moment, un peu par hasard, je me suis mis à faire des photos noir et blanc, et puis assez vite, là ça s'est accéléré parce que je me suis dit non mais c'est vraiment important de faire des images pour toi. Et j'ai l'impression d'arriver avec au bout de quelques mois de photos à faire des choses potentiellement plus intéressantes. Il fallait que je travaille qu'au bout de 15 ans de musique. Donc le choix était vite fait. C'est quelque chose bizarrement qui m'était familier, la photographie. Bizarrement, il y a des images que j'avais vues enfant qui étaient très nettes dans mon esprit. Bon, alors à l'époque, c'était sur les photos de Cartier-Bresson, de Sieffre, ce genre d'images. Et puis un peu de photographes américains aussi. Et il y avait quelque chose, c'était un domaine qui m'était familier. Ça, c'est vraiment étrange, cette image. Cette sensation de déjà connu, de familier. C'était très fort pour moi.
En revanche, lorsque l'on voit vos photographies, il n'y a rien. Lorsque l'on voit vos photographies, il n'y a rien de familier ni de connu. On a du mal on a du mal à vous rattacher une tradition. Enfin, un des péchés, je trouve, de la photographie, c'est de vouloir reproduire sans cesse, dans tous les arts d'ailleurs, hein, enfin, il y a un côté pastiche. Ici, il y a zéro pastiche, c'est parfaitement original. Hein.
Ah, là, vous touchez quelque chose d'assez profond, en tout cas. Moi, je me souviens qu'enfant, j'avais un appareil, j'avais fait un tout petit peu de photos, mais vraiment enfant, j'avais moins de 10 ans, et il y avait, de façon très étrange, l'idée que ben, ça pouvait valoir quelque chose si, uniquement si je reproduisais pas le énième coucher de soleil ou vraiment l'image de la plage ou du pin parasol comme ça. Et que c'était intéressant qu'il y ait, si on pouvait dégager une espèce de singularité. Alors évidemment, après, ça se travaille. Parce que d'abord, on commence par regarder ce qui a été fait. Mais effectivement, en tout cas, il y a quelque chose qui, pour moi, résonne un peu dans la série, d'un point de vue très personnel, c'est que ces animaux, ils sont un peu une étrangeté, comme ça, une singularité. Et c'est vraiment la façon dont je vis la photographie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort pour moi de trouver ma façon de faire les choses. Et sur les paysages, par exemple, sur lesquels je travaille en ce moment, ça fait 7-8 ans que régulièrement je prends des images. Et puis, depuis 2 ans, je me suis dit, tiens, une forme là qui naît, sur laquelle j'ai envie de poursuivre. Puis une fois que je tiens la forme, après, bon, j'ai un cadre. Et voilà, tous les gens qui essayent de créer des choses savent qu'en fait, un cadre, ça peut être vraiment libérateur comme ça. Mais au départ, j'essaie de le construire moi-même, ce cadre-là. Et peut-être que, je ne sais pas, mais une spécificité de ma photographie, c'est effectivement de donner l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire en prenant des choses tout à fait réelles, alors sans jouer sur le flou, sans faire des effets, vraiment en prenant les choses de façon assez droite, on va dire straight, comme ça, comme diraient les Anglais, il y a quelque chose qui bascule ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine un peu dans cette capacité, ce pouvoir magique ou maléfique de la photographie, d'emmener complètement, c'est quand même incroyable, avec quelque chose qu'on a vu, qu'on prend tel quel, en gros, sur lequel on ne fait pas de manipulation, et puis paf, on est emmené complètement dans l'esprit, dans un monde, dans un univers qui s'ouvre comme ça à nous.
Mm. Écoutez, je crois que pour découvrir à quel point tout ce que vous venez de dire reflète la nature réelle de vos photographies, le mieux est de se rendre à l'exposition qui se déroule donc à l'Institut de France au Quai Conti, et je reprécise jusqu'au 22 novembre, et pour avoir vu l'exposition, ne vous dites pas en consultant le site internet « C'est bon, j'ai vu les photographies d'Éric Pillot », ce n'est pas vrai, il faut les voir à taille réelle, pour juger de la qualité du grain, de la profondeur des couleurs, et de se laisser happer par celle-ci. Cela n'a absolument rien à voir. Une exposition de photographie, c'est comme une exposition de peinture. Il faut se déplacer pour la voir et en juger, non seulement à taille réelle, mais à émotion réelle. Merci beaucoup, Éric Pillot. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. En tout cas, c'est vrai que pour la photo telle que je la pratique, les tirages sont vraiment importants. Voilà, et je travaille depuis avec un homme de l'ombre. En fait, je ne suis pas tout à fait seul pour faire ces photos. Je travaille avec un tireur qui est vraiment excellent, qui s'appelle Bernard Monjarret, dans un studio réputé parisien qui est le studio Bordas. Voilà. Ça va commencer là, mais ça a commencé avec la même personne. Et donc, effectivement, on prend beaucoup de soin à faire les tirages. Et c'est vraiment effectivement important de les voir comme pour la photo que je fais. Au même titre vraiment qu'une peinture, etc. Et quand on les voit sur écran ou reproduit sur un magazine ou un livre, si bien imprimé soit-il, c'est effectivement quelque chose d'un peu différent. Et vraiment, la finalité, en fait, mes images, c'est vraiment le tirage qui est au mur.
Oui, prendre le livre pour se souvenir de l'exposition, mais pas prendre le livre à la place de l'exposition, sauf si on ne peut pas se déplacer, parce que voilà, ça c'est comme ça. Mais mieux vaut faire l'effort de se déplacer, surtout si on est en région parisienne, d'autant que l'exposition est gratuite, je le précise. Il ne faut pas refuser ce type de plaisir à la fois gratuit et élevé, c'est si rare de nos jours. Merci encore Éric Pillot.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.